Les orages maléfiques, chapitre 4. La dure réalité de son rôle lui sautait aux yeux. Elle l'aveuglait. Fini le temps de l'optimisme béat. Maintenant, il devait opérer des choix parmi ses collaborateurs. Lentement, le piège se mit en place. La fusion n'était qu'un leurre destiné à la communication au public. La vérité lui apparut dans toute son horreur. Il allait congédier plus de 50 personnes, et autant de familles qui seraient dans la difficulté dans les mois à venir. Il ne dormait presque plus. Seule l'aide de puissants somnifères lui permettait de récupérer de cette tension insoutenable. Il se repliait sur lui-même, ne voulant pas en faire profiter sa compagne. L'homme devenait taciturne et irritable. Il s'emportait pour un détail. Sa fierté et sa conscience professionnelle l'empêchaient d'interrompre sa mission. Il y consacrait toute son énergie. La hiérarchie exigeait des résultats dans des délais raccourcis. Il décortiqua les dossiers de tous les employés de son secteur, afin de prendre les décisions les plus pertinentes. Il avait rédigé deux modèles de restructuration du pôle crédit sans succès. À chaque fois, la direction générale considéra son projet trop timoré et en deçà des objectifs de performance souhaités. Il reprit son dossier et rajouta des coupes sombres dans les effectifs. Il réalisait la galère dans laquelle il s'était fourvoyé. Il ne pouvait plus faire machine arrière au risque de se saborder. Ses collègues zélés obtinrent le satisfecit du Big Boss. On le somma d'accélérer afin de présenter le plan social au plus vite. On lui adjoignit un expert qui l'aiderait dans sa démarche. Il comprit bien vite que celui-ci présentait toutes les caractéristiques d'un fossoyeur. Chacune de ses propositions transitait par ce spécialiste des restructurations. Le résultat de ce duo insolite le rendit malade. De 120 postes de travail, son unité se retrouvait avec 30 miraculés. Il faudrait décider de leur sort et garder les meilleurs. Lorsqu'il arrivait le matin, il n'osait plus regarder droit devant lui. Son regard fixait la pointe de ses souliers. Il se sentait mal face aux mesures qu'il devait annoncer à son équipe. Il tergiversa pour retarder au maximum l'annonce d'un tel désastre. Certains essayèrent de lui tirer les vers du nez. Il s'esquivait par une pirouette. Aucun n'était dupe. Il se préparait des lendemains difficiles. L'unique interrogation étant de savoir qui rejoindrait la charrette des condamnés. La sélection des rescapés reposait sur des critères imposés par la direction générale. La compétence, la disponibilité, l'absentéisme, l'aptitude au changement et l'adhésion aux valeurs de l'entreprise serviraient à départager les candidats. Il n'était pas question de tenir compte de l'ancienneté, de la situation de famille, de l'état de santé ou des difficultés à se recycler dans une autre branche. Il se fit très vite un nombre impressionnant d'ennemis et devint la cible à abattre, l'oiseau de mauvais augure. Il rentrait en fin de journée, exténué, non sans avoir fait un petit détour par le pub voisin du bureau. Il ingurgitait deux ou trois whisky et rejoignait son domicile. Le mélange de l'alcool et des médicaments produisait rapidement ses effets dévastateurs. Il somnolait à tout moment et ne dormait pratiquement plus d'un sommeil réparateur. Il s'installa peu à peu dans la déprime et aucun garde-fou ne lui indiqua qu'il s'aventurait sur un terrain dangereux. Alors qu'il roulait pour rejoindre sa maison, il zigzaga, s'attirant les foudres des autres conducteurs. Il paniqua et percuta la voiture devant lui. Les deux automobilistes s'invectivèrent et une patrouille de police sépara les deux protagonistes. Les policiers sortirent de leur panoplie l'alcotest qui changea de couleur et l'affaire se termina au commissariat. Par mesure conservatoire, son permis de conduire lui fut retiré en attendant la décision du tribunal. Il ne doutait pas de la suite des événements. La répression sortait de toutes les bouches ministérielles et préfectorales. En accord avec son épouse compréhensive, il loua un studio en ville, à deux pas du siège. Il n'aurait pas besoin d'un véhicule pour s'y rendre, et sa moitié viendrait le prendre en fin de semaine. La solitude lui pesa davantage. Il s'attardait plus longuement au pub, et sa consommation augmenta. Son état se révéla à ses collaborateurs, qui en firent des gorges chaudes. Il sombrait au vu et au su de tout le monde, sans la moindre bouée de sauvetage. Personne ne se hasardait à lui tendre la main. Son comportement alerta les hautes sphères. Il fut convoqué par le patron, qui avait réuni pour l'occasion le comité directeur. Son sort se joua devant eux, seul contre cinq. La punition paraissait bénigne en rapport des reproches formulés. Mais ses fins stratèges ne voulurent pas s'attaquer à un cadre supérieur de son rang tant que le plan n'était pas avalisé. On lui proposa donc la responsabilité d'un pôle d'audit appelé à disparaître dans le nouvel organigramme. Il accepta la promotion sanction qui prendrait effet à l'issue de la désignation des 90 suppressions d'emplois dans son service.